concert RDV chante Brassens, donc des reprises de Georges Brassens façon jazz rock, on peut dire ça comme ça. Ça se passe à l'Hôtel de Guine à Arras ce samedi 20 décembre à 20h30. Et pour en parler, on accueille Norbert Gallo. Norbert Gallo, guitariste avec un riche parcours musical. Bonjour Norbert.
Bonjour Nico.
Alors pour celles et ceux qui n'ont pas forcément suivi ta carrière ces 30 dernières années, est-ce qu'on peut résumer ces 30 années de carrière en quelques minutes ?
Oui, ça, on va essayer d'être bref là-dessus. Oui, ça a été une carrière qui n'était pas vouée spécialement à devenir musicien professionnel. Moi, je travaillais mon instrument intensément, mais je ne pensais pas devenir musicien professionnel. Mais voilà, les choses sont faites comme ça. Et je commençais par faire des séances d'enregistrement. J'ai signé chez Barclay d'abord. Et après, on m'a repéré. On a voulu que je joue dans des tas de choses. Alors, ça a commencé avec des musiques de films où je faisais des guitares. Voilà. Et puis après, des artistes. Et après, je suis devenu orchestrateur. J'ai pris des cours d'orchestration et j'ai réalisé des albums pour plein de chanteurs. On ne va pas citer tous les noms. Et puis de la pub, évidemment, comme tout bon musicien dans ce métier. Et puis des choses plus alternatives, plus borderline, avec pas mal de gens de la scène rock de l'époque des années 80, on va dire Vienner, on va dire beaucoup de ce qui se passait entre le label Barclay Rock et Virgin, qui était au départ un bureau plutôt rock'n'roll avec des dossiers de partout en désordre à Belleville. C'était moins luxueux qu'après, on va dire. Et puis après cette période-là, où j'ai dû bosser pendant 10 ans, je suis parti d'autre côté de l'Atlantique et je me suis mis à écrire de la musique pour moi. Et puis à jouer du blues aussi avec des gens qui étaient déjà immergés dans le style. Et ça m'a donné des ailes, ça m'a libéré. Je suis revenu avec des idées de faire plutôt ce que j'avais envie de faire. Et puis je me suis retrouvé à enregistrer mes albums déjà. Puis après, me retrouver avec Deep Forest parce qu'on était liés d'une sorte de lien amical et professionnel. Donc voilà, ça, il y a eu Deep Forest pendant quelques années. Des artistes comme Anato Rohan, Mecano, George Groban, voilà, des artistes japonais. Et puis m'installer dans le Nord.
Alors qu'est-ce qui t'a amené à t'installer dans le Nord-Pas-de-Calais, près d'Arras, quoi, hein?
Oui, alors ça a été pareil, un concours de chance et de circonstances. J'ai déjà rencontré mon épouse dans le Pas-de-Calais, dans les studios Deep Forest, justement, qui est Claire Galloplas, qui est harpiste, concertiste, elle. Et elle donnait un concert dans les studios de Deep Forest. Et puis, bon, voilà, depuis, on ne s'est jamais quitté. Et elle vivait aux États-Unis à l'époque. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit, Paris, au bout d'un moment, ça suffit, quoi, ça va. Et puis, c'est plus la peine d'y être pour faire le musicien français. On peut être de partout maintenant pour faire ce qu'on a à faire. Et donc, voilà, on s'est installé d'abord à Arras, puis après, on a été se mettre un petit peu à la campagne. Donc, on est à Rumeaucourt. Et puis, donc, il y a un studio d'enregistrement. Ça permet d'avoir une sorte d'autonomie de travail. Ça permet de réaliser des artistes, de réaliser les choses qu'on fait, nous, déjà, aussi. Et puis d'être un peu plus en paix, quoi, voilà.
Alors justement, la structure, ça s'appelle L'Enclume, c'est ça ? C'est un studio d'enregistrement, un studio une structure de production ?
Alors c'est plein de choses, c'est tout ça en même temps. C'est une unité de production, parce que par exemple à L'Enclume, on a produit le dernier album de Françoise Hautefen, qui a fait sa présentation là jeudi dernier à l'Office culturel, ici à Arras. Entre autres, il y a des artistes qui viennent réaliser leur album ou leur mini-album, comme Les Oreilles Dehors avec un Z. Là, c'est un terme un peu révolutionnaire de La Réunion, ça, Les Oreilles Dehors. Et c'est un trio très, très... c'est une sorte de chanson punk, on va dire. C'est très, très acide, très piquant. Ils sont venus enregistrer chez nous récemment, enfin, dans les choses récentes. Et puis, c'est aussi un studio d'enregistrement, forcément, hein, vu qu'on fait de la production, donc il y a un studio d'enregistrement. Et on produit aussi des choses sur scène. Et surtout, je pense que L'Enclume, c'est plutôt un centre qui fédère les musiciens. C'est-à-dire comme les majeures compagnies n'existent plus vraiment pour faire des choses en dehors du système très commercial qui est très affiché à la télévision, M6, TF1, voilà. Les artistes, où ils sont restés en jachère, où ils ont essayé de créer des structures pour pouvoir travailler et donner leur spectacle. Alors on s'est dit, tiens, ça pourrait être pas mal de faire des échanges avec d'autres artistes, d'autres musiciens, et de fédérer ces énergies-là. C'est-à-dire que voilà, on en fait travailler quelques-uns, on travaille avec eux après dans une autre structure, et ainsi de suite. On essaye de faire quelque chose qui a une résonance un petit peu de partout, comme ça. On a des gens qui sont dans la Drôme, des gens qui sont en Bretagne, des gens qui sont dans le Nord, voilà. Et on espère qu'avec le temps, ça va permettre de générer une énergie qui s'élargit comme ça, qui n'est pas spécialement coûteuse, mais qui permet de créer de la musique et de faire des choses et des belles productions sans dépenser des fortunes, sans avoir besoin des majeures compagnies. Voilà.
Les gens qui voient de travers pensent que les vents verts qu'on voit sur les trottoirs sont faits pour les impotents ou les ventripotents. Mais c'est une absurdité, car à la vérité, ils sont là, c'est notoire, pour accueillir quelque temps les amours débutants.
Pourquoi ce nom, l'enclume, alors?
L'enclume, c'est simplement, bon, c'est un petit. C'est pour rendre hommage à l'histoire de la musique, parce que c'est Pythagore, en vérité. Les lois de Pythagore avec les quintes, les octaves, les tierces, eh ben, ça se passe d'abord avec une enclume, parce qu'il le raconte, lui, dans son histoire. Il marche dans la rue, puis il y a le forgeron, et il entend les harmoniques du marteau sur l'enclume. Et je dis, tiens, c'est pas mal que. En plus, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une forge quand on est en train de faire de la musique. Enfin, ça dépend quand même de la musique un peu costaud. Il y a toujours une sorte de travail de fusion qui se fait. Moi, j'aime bien cette image-là, quoi. Un peu de feu et de métal.
Tu parlais de Barclay, d'une certaine époque de l'industrie musicale, on peut dire ça comme ça. Là, il y a eu d'énormes changements dans cette industrie musicale. Tu en as parlé un petit peu. Toi, tu te considères un peu comme un échappé de ce système-là, ou comment tu vois les choses?
Je ne sais pas s'il faut penser ça en tant que, comme un échappé ou un dissident. Non, non, je pense qu'on a tous fait partie de ce système-là. Bon, pour ceux qui l'ont connu, hein, moi j'ai eu cette chance d'avoir ces moments de gloire de ce métier-là où on était en tournée tout le temps, on était toujours en train d'enregistrer. C'était actif, super actif, de 9 h du matin à point d'heure le matin. C'était comme ça. Mais ça faisait partie du système. Et que le système rock, le jazz, tout ça a été fondu dans un truc avec évidemment la variété qui fonctionnait mieux, mais c'était une sorte de bouillon qui fonctionnait. À partir du moment où le disque a peiné à être vendu, évidemment les compagnies ont eu plus de mal. Ça a été d'abord l'absorption des labels comme Barclay, qui ont été absorbés par des groupes internationaux. C'est devenu Phonogram et ainsi de suite. Ça a été CBS avec plein plein d'autres labels, c'est devenu Sony et compagnie. Donc voilà, tout ça, c'est d'abord devenu des grosses compagnies internationales pour vendre des gros produits, et petit à petit, évidemment, ça a éloigné de ce giron-là les productions qui étaient un petit peu plus intimistes, on va dire. Et de là sont créés des labels. Des petits labels qu'on connaît, qui ont fait le rock, qui ont fait le punk, qui ont fait le reggae, qui ont fait le rap, qui ont fait tout ça. Et c'est redevenu des énergies fortes, jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce que le disque s'épuise vraiment. Et voilà. Donc je pense qu'on est surtout survivant de tout ça, moi je crois, et que à partir de là, si on a encore des possibilités de créer des choses et de vouloir les créer avec à peu près les mêmes outils, c'est-à-dire essayer de faire de la promotion, enregistrer d'abord. Hein, alors les supports évidemment changent, ou c'est du support en téléchargement, ou c'est du support physique comme le CD ou du DVD, qu'on ait la possibilité de le faire, qu'on ait la possibilité de communiquer, et puis la possibilité d'aller sur scène. À partir du moment où on a à peu près couvert tout ce genre de possibilités-là, on se remet à être comme une petite maison de disques, une boîte de prod. Mais ça ressemble plus à ce que c'était à l'origine. Ça devient intéressant dans le sens où on est libre aussi.
levait fort sur la grande route. Elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute. Le matin même à un ami, courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri en séchant l'eau de sa frimousse. D'un air très doux, elle m'a dit oui.
Extrait du CD du groupe RDV qui reprend Brassens. RDV en concert ce samedi à l'Hôtel de Guine à Arras. On est toujours en compagnie du guitariste du groupe Norbert Gallo. Norbert qui nous raconte comment est venue l'idée de reprendre le grand Georges.
Je ne verrai pas au change pardi.
Alors c'est une longue histoire en même temps. Moi, je viens plutôt donc du blues, hein, comme tu sais, du jazz. Hein. Et il y a quelques années, on donnait des concerts à bord de bateaux, de paquebots, on va dire, qui organisaient des concerts, on va dire, des croisières plutôt culturelles. Voilà, un peu de partout dans le monde. Et il s'avère qu'une fois, on avait assisté avec des amis à un spectacle de Brassens, et puis on s'était un petit peu... envoyer le coude dans les côtes en se disant « Bon, c'est sympa, mais faudra enlever la moustache et le pantalon velours pour essayer de faire quelque chose. » Brassens, en plus, c'est un peu nous, on s'est mis à considérer ça comme un vieux bluesman français, quoi. C'est notre folkman, c'est des Merle Travis, comme on a aux États-Unis. On a les nôtres, nous. On a nos Moulouji, nos vieux bluesman. C'est, voilà, et Brassens en fait partie, il est d'un des monuments. Évidemment, les textes, c'est indiscutablement des merveilles. Les musiques, c'est pas aussi simple que ça quand on commence à se pencher sur le problème. C'est toujours corsé, c'est toujours poussé. Et bon, puis cette bonhomie, puis ce côté un petit peu révolutionnaire du bonhomme qui était toujours sur une sorte de frontière entre ce qui est autorisé et ce qui l'est pas. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire quelque chose. Alors ça démarre avec mon ami Serge Sala, c'est lui qui a l'idée au départ. Et Serge me dit, oh, allez, on va monter un truc plutôt sympa, on a tous du métier, on peut faire un truc sympa. Alors voilà, alors Serge, moi je l'ai connu vraiment fin des années 70, début des années 80. Lui était à son troisième album, il écrivait des chansons pour Nicole Croisille, pour Nicole Rieux, pour Gérard Palapra. Enfin bon, c'est, voilà, il est un des pionniers de la radio après, il passe devant des radios un peu dans le sud, Valence, Lyon, tous ces coins-là. Et donc on est resté toujours en contact, à courir le monde un peu les uns et les autres dans leurs propres histoires. Puis, et bon voilà, on se retrouve sur un bateau. On a ça. Il y a Christian Bellhomme qui est avec nous, qui est mon acolyte dans mon groupe de jazz, dans mon quartet, pareil, a une grosse carrière d'arrangeur, de musicien, Steve Sheehan, et j'en passe des meilleurs, avec des pièces de théâtre, enfin bon, voilà. Et Julien Rieux, qui est Julien Rieux de Pelle, qui est le bassiste, lui, est le plus jeune de l'équipe et qui part 3-4 sur l'idée de rendre hommage à Brassens en revisitant l'œuvre et en essayant de faire des arrangements qui ne sont pas habituellement employés pour ce genre de musique-là. Et puis ça commençait comme ça. On s'est dit, tiens, toc, super, on va faire ça. On fait un travail d'approche d'orchestration à tous les quatre, comme ça. Et puis bon, ça a été un travail... un peu fouillé pendant un petit moment, puis on a commencé à donner des concerts. Et c'est resté dans le cursus de ces croisières culturelles. Alors on a fait toute la Méditerranée, on est monté à 85 degrés nord à la Madeleine, au Spitzberg, on est descendu jusqu'à Ushuaïa à 55 degrés sud, on est parti au Moyen-Orient, enfin on a écumé à peu près toutes les mers, et chaque fois c'était un succès terrible. Succès terrible. Et en même temps qu'on faisait ça, on a enregistré l'album que tu as écouté. Et on s'est dit, tiens, c'est marrant parce qu'il faut que ce soit un album voyageur. Donc, une jolie fleur sur une peau de vache. Donc, évidemment, on l'a tourné en begin. On a des choses qui sont un petit peu plus jazzy, un petit peu plus jazzy-bluesy, on va dire. On va retrouver aussi une sorte de tango argentin quand on le fait l'Auvergnat, puis on le fait en espagnol. Il y a une version qui a été écrite pour une adaptation qui était faite pour Paco Ibáñez. Dans les années 70, on a retrouvé le texte en espagnol, c'était génial. On l'a tourné un peu argentin, avec des harmonies un petit peu impressionnistes, comme ça. Côté un peu folk pour La Clairefontaine. Voilà, c'est une sorte de façon de visiter tout ça et de mettre ce parfum un petit peu du monde dans Brassens. Et voilà, et puis en même temps, avec un petit peu d'humour, pas prendre les choses avec un peu de légèreté aussi, parce que je pense que le but du garçon aussi au départ, c'était de ne pas être spécialement sérieux sur ses propos. Donc voilà, on essaie de se rapprocher un maximum de tout ça. Et puis avec mes trois copains, on a fini en 2004, en vérité, par c'était le Théâtre des Deux Ânes à Paris. On a fait 3 jours pleins. Et puis bon, c'est resté comme ça parce que chacun partait dans ses propres aventures. Et puis là, on s'est revus, on s'est dit mais c'était super cette histoire de RDV. Il faut absolument refaire ça. Et puis bon, on passe du bon temps ensemble. C'était de bons arguments, on va dire, pour remonter le groupe.
Es para ti este cantar, tu maño tú que sin hablar me diste leña el día aquel que el frío me hería la piel.
Tu disais Brassens, connu pour ses textes, et pas si simple que ça au niveau musical, oui. Parce que lui, c'était un fan de jazz manouche, hein, c'est ça?
Oui,
hein,
bah, oui, non seulement ça, il était... Alors, son côté un petit peu sur le bord de l'autoriser, il passait pas mal de temps avec la gente gitane et manouche parisienne de l'époque, qui n'était pas tellement rangée dans le système. Et il y avait aussi Henri Salvador, qui est un grand admirateur aussi de Georges Brassens, qui lui est un super jazzman, qui était un super jazzman, évidemment. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu rythmique qu'on entendrait un peu à la Django, souvent, dans ces morceaux. Nous, on ne s'est pas gêné pour l'approcher. Par exemple, dans Le Vieux Léon, on est tout à fait dans l'esprit du jazz manouche parisien, on va dire, parce que c'est le jazz musette, même, avec l'accordéon. Parce que c'était son monde. C'était son monde à lui, ça, c'est sûr. Alors, ça ne résonne pas autant que ça sur ses albums, mais il y a eu pas mal d'expériences qui ont été faites où il est là, présent. Il a même joué avec Moustache, où il joue la guitare, il ne chante même pas. Il joue la guitare et c'est vraiment une sorte de jazz manouche très parisien.
Alors, pour ce spectacle, ce samedi à l'Hôtel de Guines, il y a une petite nouveauté par rapport au répertoire que vous abordiez jusqu'à présent. C'est un texte inédit de Brassens, c'est ça?
Ah oui. Alors, effectivement, il s'est passé un truc entre-temps. Serge tombe sur un texte de Brassens qui s'appelle « Jamais contente ». Ce texte n'a jamais été mis en musique. Personne n'en a jamais entendu parler, évidemment, parce que c'est jamais sorti sur un album. Serge remonte la piste pour trouver les ayants droit, les héritiers, et donc c'est le neveu de Georges Brassens. Il arrive à la voir et lui demande l'autorisation d'écrire une musique sur ce texte. Le garçon en question donne l'autorisation, Serge écrit une musique et ça devient la chanson de Brassens qui n'est jamais sortie. Voilà, on l'a bossé comme ça il y a quelques temps, mais c'est la première fois qu'on va la jouer tous ensemble. Ça va être à Arras. Là, c'est une première de première. Ça. C'est, donc voilà, jamais contente. Toujours avec la petite dose d'acidité qu'il faut dans les genres de textes qu'il faisait comme ça. C'était une jolie façon de mettre du piment dans la relation homme-femme, comme il a souvent fait, avec beaucoup d'humour, beaucoup de tendresse aussi.
Norbert Gallo de L'Enclume Live Prod, guitariste notamment au sein de RDV. RDV chante Brassens ce samedi 20 décembre à 20h30 à l'Hôtel de Guine à Arras. Les tarifs 8 ou 12 euros, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Information, réservation au numéro de téléphone suivant, le 06 38 05 37 86. Il est possible de réserver ses places auprès de l'Office culturel au 61 Grand Place à Arras, ou bien une heure avant le concert, donc directement sur place à l'Hôtel de Guine, rue des Jongleurs. A noter que RDV sera aussi en concert le lendemain, donc ce dimanche 21 décembre à 17h, à Oisy-le-Verger, donc à la campagne près de Marquion, à la salle polyvalente. C'est organisé par l'association Coup de Cœur. Là, les tarifs 5 ou 12 euros. Plus d'informations sur le site du groupe, donc rdv-legroupe.com.
J'étais dur à cuire, elle m'a converti. La fine mouche, et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche, qui a les dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux. Son empire, bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire, une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle, une jolie pervenche un jour en mourut à coup d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mangements sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.